Je suis énormément ravie, vraiment, de la présentation de ce livre et de cette nouvelle maison d'édition en sciences humaines, donc Anna Mossa. Donc, ce soir, nous recevons Victoria Vanneau, historienne du droit, qu'on avait déjà eu le plaisir de recevoir il y a quelques années pour un livre sur le chien. Qui du coup abordait l'histoire des animaux domestiques, du droit des animaux domestiques et de leur place dans notre société. Et ça avait été une petite pépite originale et une vraie révélation. Et en fait, je pourrais employer exactement la même expression pour La paix des ménages, hein, histoire des violences conjugales du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors avant de rentrer plus en détail avec Victoria sur son livre, je voudrais juste faire une petite présentation de cette nouvelle maison qui est arrivée en mars sur les tables des bonnes librairies de France. Donc Anna Mossa, qui est vraiment une maison de sciences humaines pour les lecteurs de sciences humaines, mais également pour un public encore plus large. L'idée étant d'être dans le partage des savoirs, de revenir à quelque chose de populaire dans le sens noble, dans le sens de la transmission, dans le sens où on rend disponible des connaissances et que ceux qui les maîtrisent ne sont pas au-dessus, mais avec les gens, et qu'on est là pour discuter, qu'on est là pour prendre plaisir à la lecture. J'ai eu le bonheur de pouvoir les lire tous jusqu'à présent et je vous garantis le plaisir de lecture pour chacun des livres. Donc ces livres, justement, le premier s'appelle Le Louvre insolent. On visite le Louvre complètement autrement, on s'arrête sur des tableaux qu'on ne connaît peu ou qu'on ne prend pas forcément le temps de regarder. Et là, il y a un jeu de regard qui change. On les aborde avec de l'humour, on les aborde de façon décalée et on se rend compte à quel point, en fait, on apprend. On apprend avec plaisir, on apprend avec bonheur et ça fonctionne très bien. Le second livre publié en mars est donc La paix des ménages, sur lequel on va revenir. En mai, ont succédé deux autres publications, Débordement, Histoire sombre du football, 1936-2016, qui regroupent en fait 13 histoires, dont le fil conducteur est le football, mais le football comme caisse de résonance de questions de société et avant tout d'hommes, 13 destins qui, dans leur parcours, vont finalement résonner avec des choses en nous, autour de nous, et qui vont nous toucher, qui vont nous marquer, avec une écriture très intéressante et pour le coup très proche de la fiction, mais avec un fond de vérité vraiment important. Et la dernière publication est vraiment, je pense, plus qu'importante. Un livre qui s'appelle Les émeutes de Chicago, qui est une publication d'un texte publié en 1919 aux États-Unis et qui en fait revient sur les émeutes raciales qui ont éclaté dans le pays à ce moment-là. Et il y a eu un travail absolument formidable de Christophe Granger qui nous présente le texte assez longuement, qui a fait un travail de notes formidable pour justement comprendre ce qu'étaient ces émeutes au-delà des faits, les inscrire dans une réflexion beaucoup plus pertinente que la question purement raciale et d'interroger justement ces émeutes qui, malheureusement, dans notre histoire, ont résonné avec les événements récents qu'ont connus les États-Unis fin 2014-2015. Donc vraiment, je vous invite à découvrir l'ensemble de ces textes qui sont tous incroyables parce qu'ils viennent répondre à des absences éditoriales, tout simplement. Et du coup, on est content de les avoir parmi nous. Et on est content donc d'avoir Victoria Vanneau avec nous, donc pour La paix des ménages, cette histoire des violences conjugales. Alors, sujet absolument jamais traité, donc on est vraiment dans de la pure nouveauté qui va malheureusement amener Victoria à se répéter, mais pour vous au moins à prendre la mesure un petit peu de l'originalité et de la force de ce texte. J'ai l'impression que tout part un petit peu de cet article 213 du Code civil de 1804 qui dit ceci: « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance au mari ». Le ton est donné pour le 19e siècle. Et on a eu tendance un petit peu à limiter ce 19e siècle, justement, à cette notion de prédominance et de domination masculine qui, tout en étant vrai, venait un petit peu de terre. La mise en place des contemporains de ce siècle pour justement faire valoir le droit des femmes et bien au-delà, le droit à tout être humain de se défendre lorsqu'il était attaqué.
Alors, avant de rentrer dans le détail, je tiens à remercier la librairie Mola et Mylène de me faire revenir à nouveau et pour parler cette fois d'un sujet très sérieux. Il s'agit des violences conjugales. Alors effectivement, l'histoire de ces violences conjugales, on va dire analysée par le prisme de l'histoire du droit, est assez novatrice en tout cas. Et effectivement, cet article 213 a posé énormément de problèmes. Alors pas seulement aux contemporains, aux auteurs, aux juristes du 19e siècle, mais également à nos chers historiens et historiennes tout court de lettres, comme je les distingue souvent, qui n'ont pas compris cet article et qui y ont vu tout simplement l'autorisation pour le mari de battre sa femme au 19e siècle. Or, c'est tout simplement, cet article-là est tout simplement venu régir les rapports entre les hommes et les femmes, notamment entre le mari et sa femme dans la société du 19e siècle, puisque dans toute société, en tout cas celle du 19e siècle et la nôtre encore aujourd'hui, eh bien, il fallait, la famille représente en tout cas à minima cette société, et à l'époque au 19e siècle, il fallait un chef. Et le chef tout désigné, eh bien, c'était le mari, puisque depuis la nuit des temps, et encore plus depuis les influences chrétiennes, eh bien c'était l'homme qui était fort, qui était puissant, et c'était à lui qu'on avait dévolu cette puissance-là, et la femme était évidemment un être faible, qui accouchait dans la douleur, etc. etc. Et évidemment, bon, bah, ça tombait pile poil. Mais cet article 213, pour les contemporains, les juristes, notamment du 19e siècle, a posé quand même quelques interrogations, parce qu'ils se sont dit, mais mince, est-ce que c'est vraiment à travers cet article 213-là qu'on va avoir un droit de correction ? Et en fait, on a eu tout un débat comme ça en se disant « Mais non, cet article-là vient régler tout simplement l'autorité maritale. » Et puis pour les plus critiques, les plus progressistes, évidemment, ceux qui ont reproché à ce 19e siècle d'être beaucoup trop conservateurs, eh bien, ils y ont vu quelque part une puissance maritale qui pouvait peut-être être envisagée sous une forme de droit de correction. Mais ça a été très compliqué pour eux de démêler un petit peu tout cet écheveau, ce vrai et ce faux, en tout cas, entre l'autorité maritale et le droit de correction. Et le droit de correction, c'est clair, il a existé pendant une période on va dire assez ancienne, le Moyen-Âge, on avait le droit de battre sa femme, ça c'est certain, mais modérément. Il ne fallait pas la tuer. Ben, les coutumes de Beauvaisis, les coutumes de Normandie, etc., prévoyaient effectivement le jus castigandi, le droit de battre, le droit de batture, mais il fallait le faire modérément. Voilà, ça c'était très important. Et évidemment, au 19e siècle, quand on a, évidemment, c'est le siècle de l'histoire, et ça a posé quelques problèmes. Et toutes les études comme ça des juristes, notamment les thèses de droit de l'époque, ont toute cette partie un peu historique en disant « mais regardez le passé, nous on est un petit peu plus civilisés, on ne parle pas de droit de correction, on parle d'autorité maritale ».
Le poids des mots est vraiment important et on va s'en rendre compte justement tout au long de la rencontre. Comment voilà, la frontière pour déterminer ce qui est un excès de violence ou ce qui correspond à ce qui peut être accepté est vraiment décisive dans justement les positions que vont pouvoir prendre les juristes dans chaque affaire. Parce que finalement, c'est étape par étape et malgré une envie d'arriver à faire un travail en continu, ils vont se heurter à chaque nouvelle affaire à un devoir de presque, j'ai l'impression, pas recommencer, mais en tout cas devoir prouver systématiquement leur démarche.
Alors c'est tout le travail de légitimation, puisqu'en fait, moi j'ai abordé la question des violences conjugales sous l'angle du pénal. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, tout ce qui relève de la famille dépend du code civil. Le code civil de 1804 a été fait pour les hommes, par les hommes, pour gérer le quotidien de la famille. C'est pour ça qu'on a la partie de la propriété, on a tout ce qui relève de la famille, les contrats, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'économique, de familial, ça relevait du code civil. Or, on avait prévu à l'intérieur du code civil le divorce et la séparation de corps, et notamment au motif des excès, des sévices et injures graves. Et on était parti du principe que, puisque c'était prévu, la violence, les excès de violence, les excès du mari, on ne voyait pas pourquoi le pénal, qui normalement doit réprimer tout ce qui est de l'ordre du trouble à l'ordre public, avait à s'immiscer à l'intérieur des familles. Puisque le pénal, lui, il ne rentre pas dans la maison. Le civil, le code civil, oui, il a même le droit de pénétrer un petit peu sous l'alcôve, quelque part, mais pas le code pénal. Ça, c'était interdit. Et donc, tout au long du XIXe siècle, il s'est agi pour les professionnels du droit, que ce soit les juges, mais également certains grands spécialistes du droit, les doctrinaires, eh bien, de légitimer l'action du juge pénal. Alors, ça a commencé, on va dire, presque, je serais tentée de dire, déjà à la Révolution, puisqu'on avait l'article 14 de la loi de 1791 qui avait déjà érigé en circonstances aggravantes le fait de battre sa femme. On n'avait pas plus de détails, mais en tout cas, ce texte-là existait. Et puis on avait encore une résurgence de ce fameux uxoricide de l'ancien droit qui était le fait de battre sa femme, qui avait été élargi aussi à l'idée de battre son mari, ça arrivait, hein, c'est pas que féminin, les violences conjugales. Et puis finalement, arrive la Révolution, on a envie de se débarrasser un petit peu de tout ce qui relevait de l'ancien droit, arrive la codification, on se dit on va pas maintenir l'uxoricide, et on crée au miracle un espèce de conjugicide qui est apparu en 1801 lors de la rédaction du code pénal. Et ça, ça a été, on va dire, une première pierre à l'édifice, en tout cas une sorte de reconnaissance d'une situation de fait. Ils avaient conscience qu'il y avait des violences conjugales, il fallait absolument les réprimer. Donc les rédacteurs du code pénal créent un conjugicide. Alors, il a disparu du code pénal en 1810, puisqu'on n'en trouve aucune trace. Il était institué avec l'infanticide et le parricide en circonstances aggravantes. On avait prévu une peine, qui était la peine de mort, en cas de conjugicide. Et en plus, on prévoyait le meurtre de la femme et du mari, donc on prévoyait les deux. Alors, les raisons pour lesquelles ce conjugicide a disparu de notre code pénal de 1810, on n'en a pas vraiment trace, on en a quelques indices. Un très important, c'est effectivement cette présence dans le code civil de 1804, donc bien avant le code pénal, de la séparation pour sévices, excès et injures graves. Mais il y a une autre raison à laquelle, évidemment, il était important de faire disparaître cette circonstance aggravante de conjugicide, c'était le fameux article 324 qui était l'excuse du meurtre du mari qui surprenait sa femme en flagrant délit d'adultère. Si on autorisait le mari à tuer sa femme en flagrant délit d'adultère chez lui, on ne pouvait pas prévoir dans le code pénal un conjugicide. Donc pour éviter tout problème d'interprétation et éviter les sueurs froides à la cour de cassation de l'époque, on a préféré retirer, à mon avis, ce conjugicide. Mais on avait quand même conscience que il y avait des exactions qui étaient perpétrées à l'intérieur de ces couples. Et pour bon nombre de juristes, il y avait quand même cette conscience de dire « mais bon sang, on ne peut pas laisser... » Alors évidemment, c'est la majorité, hein, c'est des hommes qui frappent leurs femmes. « On ne peut pas laisser un conjoint taper l'autre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas non plus laisser le civil gérer cette question, puisque le civil va faire quoi ? Va autoriser le divorce, mais le divorce sera autorisé jusqu'en 1816. » On n'aura que la séparation de corps, mais la séparation de corps ou le divorce ne mettra pas un terme à ces violences. J'ai relevé notamment dans un certain nombre de dossiers, le mari, d'accord, il y a une séparation de corps, mais sa femme, elle est toujours à lui. Il n'a pas envie qu'elle aille voir un autre. Donc, peu importe, allez hop, on y va, elle appartiendra à personne d'autre si elle ne m'appartient pas. Donc, les pénalistes, les criminalistes de l'époque ont dit non, il faut faire quelque chose. Et ça a commencé très tôt, dès 1801, on trouve des décisions du tribunal de cassation, c'était l'ancêtre de la cour de cassation, qui revient sur cette idée de dire, ben, puisque le pénal n'est pas autorisé à rentrer, puisque, j'ai employé un grand mot très technique, l'action publique a besoin d'une plainte pour pouvoir engager la procédure pénale, on va dire, bon, ben, y a le trouble à l'ordre public. Puisque ça fait du tapage dehors, un homme et une femme qui se battent, puisque ça gêne, on va dire, les voisins, le voisinage, eh bien, on va trouver là un moyen de venir condamner ces exactions. Et ça, c'est au tout début du XIXe siècle, 1802. Et puis, la décision qui va véritablement faire prendre conscience à la justice que là, on a un vrai problème social, entre guillemets, c'est une décision de la Cour de cassation en 1825 qui s'appelait l'arrêt Boisbeuf. Alors cette décision-là, elle est passée tout à fait inaperçue par bon nombre d'historiennes et de féministes du XXe siècle, puisqu'il fallait évidemment aller se taper les décisions de la Cour de casse, qui est toujours un peu rébarbatif quand on n'est pas juriste. Mais finalement, quand on tombe là-dessus, on se rend compte que la Cour de cassation, elle est venue rétablir deux choses. La première chose, c'est de se dire le pénal, les normes pénales, elles doivent s'appliquer à tous les individus, quelle que soit la nature de leur sexe. Donc, quel que soit le lien qui unisse en plus les deux personnes. Donc, ça, c'était fondamental. Et puis, en plus, elle venait mettre un terme à ce déni de justice de dire, bon, bah, il y a une exaction qui est commise, il faut que les juridictions pénales soient compétentes. Et ça, ça a été, on va dire, la décision de principe qui a permis aux juridictions, et en l'occurrence ici, les tribunaux correctionnels, de se dire, on est compétent pour agir en la matière. Et cette décision, elle est fondamentale puisqu'elle a été prise en 1825 et qu'on est en pleine restauration de Charles X, qui est quand même la période la plus radicale du régime en France. Donc on voit bien quelque part que là, il y a une décision de se dire, voilà, on agit. Et autre élément aussi à prendre en compte, c'est que cette décision-là, elle a été voulue par le ministre de la Justice, qui était Perronnet, le comte de Perronnet à l'époque, puisqu'il a demandé à l'avocat général Moore de se pouvoir en cassation et de faire en sorte que désormais, les tribunaux correctionnels soient compétents. Et ça, ça a fait un énorme basculement dans la prise de conscience, en tout cas des juristes du 19e siècle, de se dire, voilà, maintenant, les violences conjugales, ça nous regarde, on est compétents.
Est-ce qu'il y avait une uniformisation au niveau des tribunaux correctionnels en France ? Est-ce que d'un tribunal à l'autre, les décisions pouvaient être différentes ? Est-ce qu'il y avait une exigence par rapport à ce qui avait été demandé, qui était la même, ou est-ce qu'au contraire, il y avait des disparités qui ont pu jouer dans la progression, justement, travail ?
Il faut savoir, c'est une question super intéressante. En fait, il faut savoir qu'au XIXe siècle, l'uniformisation de la France, il faut attendre quand même la fin du XIXe, avec l'invention notamment du journal, qui va homogénéiser comme ça la culture et la manière de voir. Tout début du XIXe siècle, chaque région, chaque, on va dire, juridiction a sa propre manière de voir les choses. Et quand on regarde un peu la Bretagne, on parlait quand même en breton, donc on avait besoin de traducteurs. On a des juridictions qui sont sur des territoires très, très, très larges. Les déplacements étaient assez compliqués. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et c'est très difficile de trouver, en tout cas, une uniformité. Et puis, on est en France, on pense par cas. On n'est pas aux États-Unis, on n'a pas la règle du précédent. Et on fait attention, quand on dit qu'on pense par cas en droit, ça veut dire que chaque affaire est indépendante. Et ça nécessite pour le magistrat de regarder évidemment tous les enjeux du couple, en l'occurrence, qui sont les époux ou les concubins d'ailleurs. Comment ils vivent, de quoi ils vivent et quel est leur milieu social en général. Et ça, ça vaut pour, on va dire, la juridiction, je sais pas moi, de Rennes, mais ça vaut aussi pour Paris. Les choses sont différentes. Et c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas se dire chaque affaire de violence est identique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas avoir une même manière d'agir au niveau juridique. C'est-à-dire qu'on a, avec les décisions de la Cour de cassation, une uniformité dans la pratique judiciaire, mais pas dans la manière dont on va régler, évidemment, les faits. À tel point que ce n'est pas encore bien ancré dans les esprits de se dire le pénal est autorisé à régler les affaires de violence conjugale. C'est une décision en 1872 de la Cour d'appel de Chambéry. Donc l'affaire Boisbeuf, c'était en 1825, c'était du côté de La Rochelle, Sainte. Là, on a une décision en 1872 de la Cour d'appel de Chambéry qui revient justement sur la compétence pénale en disant « Eh bien, écoutez, nous, on n'est pas compétents. Les époux, machin, X, parce qu'on n'avait pas, on n'a pas retrouvé le nom à l'époque, j'ai juste la décision, sont priés d'aller voir les juridictions civiles puisque existe la séparation de corps pour excès, sévices et injures graves. Séparation de corps, puisque le divorce ne sera rétabli que par la loi Naquet en 1884. Donc on voit bien qu'on a encore, au niveau des juridictions du fond, du mal à faire en sorte que le pénal soit compétent. Alors il faut savoir qu'à Chambéry, à cette époque-là, on est quand même dans une région qui est très, très, très conservatrice, très moralisatrice. Et donc, du coup, il va de soi que tout ce qui relève de la famille, c'est du privé, c'est du secret, et ça relève du code civil.
Pour revenir un petit peu sur la séparation des corps, justement, en vous lisant, on se rend compte à quel point les procédures étaient très lourdes. Est-ce que c'était dans l'idée de dissuader un petit peu la demande de ces séparations de corps ? Enfin, je me suis dit, ils ont fait exprès de décourager le conjoint victime, ou est-ce que c'était juste, au contraire, un système qui se mettait en place et qui, du coup, comme pour tout à chacun, il y a un temps de rodage
Il faut savoir que de divorcer ou de se séparer de corps au 19e siècle, et peut-être un peu encore jusqu'à il y a peu, c'est un échec pour la société. Puisqu'on part du principe que la famille est la base de la société. Le fait qu'une conjugalité comme ça se délite, se sépare, c'est un échec pour la société, pour la communauté en général. C'est source en plus de... Ça va germer quelque part quelque chose de négatif. Et donc, on a du mal à admettre ça. Donc, évidemment, le divorce et la séparation de corps, on est dans des procédures de réconciliation-conciliation. On a eu encore, jusqu'à peu encore, cette étape-là. Et c'est très long de se séparer. Alors, ça a été voulu peut-être aussi inconsciemment, quelque part, parce que oui, ça venait à l'encontre de ce qu'on voulait préserver. Mais quelque part, à partir de 1851... Donc on est sous la République, enfin la Seconde République et le Second Empire arrivent pas loin. On a l'idée de se dire oui, mais quand même, on va aider les plus malheureux. Donc on met en place l'assistance judiciaire qui permettait donc aux plus démunis d'avoir accès à un avocat et pouvoir engager les procédures. C'était très compliqué puisqu'il fallait rédiger un courrier. Et souvent, les femmes n'écrivaient pas, n'avaient pas accès à la culture. Donc, c'était très, très, très difficile pour elles. Mais elles y allaient. Moi, j'ai trouvé trace dans les dossiers de procédure des lettres qui étaient insérées dans le dossier et qui montraient bien, avec maladresse, évidemment, mais on voyait bien toute cette souffrance de ces femmes qui voulaient absolument en finir et être séparées. Alors, séparées de corps, c'était mieux que rien, mais au moins, c'était fait reconnaître par la justice de sa situation de violence et de victime, quelque part, et c'était un moyen de la protéger. Alors oui, avec notre regard très contemporain, on a l'impression qu'on avait tout mis en place pour empêcher ça, mais... C'était encore le cas il y a peu. Quand les gens divorçaient, il y avait toujours cette étape de conciliation, alors qu'un divorce pouvait être réglé assez rapidement. Et ça, évidemment, ça heurte. Mm-hmm. Ça heurte quelque part, puisque, évidemment, on parle de la famille, c'est une institution, c'est quelque chose de sacré. Et ça heurte, évidemment, dans les plus conservateurs des juristes.
Oui, et on comprend très bien avec. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'en fait, beaucoup d'extraits. Des procès, il y a vraiment une richesse des sources qui nous est donnée à lire. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée, c'est la charge émotionnelle qui entoure justement ces affaires. Alors on la comprend aisément, étant donné qu'on touche justement à la violence des corps, à une intimité, vraiment une promiscuité du bourreau et de la victime qui est forcément et évidemment touchante. Quel a été le rôle de l'émotionnel, j'ai envie de dire, un peu dans toutes les parties, que ce soit de la partie des magistrats et des juristes dans leur travail, qui devaient, quand bien même aussi, mettre, je pense, à distance cet émotionnel pour arriver à avancer. Est-ce que les victimes, si elles l'utilisaient, à quelle fin? Et aussi, du côté des jurés, comment étaient reçues ces histoires pour lesquelles ils devaient être amenés à donner du coup leur je perds mes mots mais à confirmer les peines qui étaient demandées. Et voilà, comment s'est jouée cette émotion?
Alors l'émotion, c'est encore une fois une question très intéressante. C'est vrai que pour un juge à l'époque et même encore aujourd'hui, il y a un devoir de réserve. Chaque affaire, il doit la gérer d'une manière objective. Il doit laisser ses sentiments de côté et seul doit primer la procédure et la norme. Mais c'est difficile pour ces hommes de l'époque de voir ces violences-là, de voir la manière dont les hommes et les femmes aussi, puisqu'on a le cas d'une femme qui a carrément jeté de l'essence sur son mari et l'a fait flamber. Donc cette violence-là, ils la subissent par des mots, par la visite au corps, et c'est très dur pour eux. Alors, il y a un magistrat à l'époque, Adolphe Guillot, qui a beaucoup écrit justement sur sa profession et qui encourageait ses jeunes collègues à justement garder son sang-froid et à toujours avoir ce regard objectif. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, tout simplement parce que c'est des hommes. C'est des hommes faits de chair et de sang, ils ont des sentiments, souvent ils sont mariés, ils sont amoureux de leur femme, et ils ne comprennent pas qu'un homme, notamment dans l'affaire Gauthier en 1880, puisse violenter sa femme, la laisser morte, nue sur le lit, et quand les magistrats arrivent sur les lieux, il n'ait pas eu la pudeur au moins de recouvrir le corps. Et ça le choque, le magistrat. Et on sent que tout au long de l'interrogatoire, ça monte comme ça en émotion, et il est perdu. Mais il n'est pas le seul, le juge d'instruction, dans ce face-à-face, dans son cabinet, là, quand il est face à l'inculpé, il n'est pas le seul à être ému, puisque quand on lit l'acte d'accusation, qui est le document lu à l'époque au moment de l'ouverture du procès aux assises. Là, au lieu d'avoir un acte qui est bref, très objectif, impartial, sec, on a une trentaine de pages écrites à la main, où on a l'impression de lire un roman, où les magistrats font preuve de partialité, de volubilité et de passion. Parce qu'ils sont tellement choqués par ce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, ça m'a toujours frappée d'ailleurs, quand je lisais les travaux des historiens, de dire, mais voilà, on n'avait jamais tenu compte des violences conjugales, la justice, elle n'en avait rien à faire, etc. Mais quand on lit ces actes d'accusation-là, on ne peut être que frappé par ce genre de texte-là. Non, ils ont eu du mal, justement, à rester froid et à ne pas faire preuve, justement, de cette émotion-là. Alors, ça ne leur a jamais été reproché. Ils lisaient ce texte-là, était lu. Les jurés, évidemment, s'en emparaient, mais paradoxalement, les jurés, aux assises, ils étaient moins émus que les magistrats qui avaient été confrontés. Parce que les magistrats, eux, ils ont vu le corps de la victime. Ils ont vu souvent, quand ils se sont transportés encore un petit peu au 19e siècle, quand c'était pas trop loin, quand ils se sont transportés sur la scène de crime, ils ont vu comment était le milieu, enfin, en tout cas, comment vivait le couple. Donc tout ça fait que, voilà, ils essaient de le faire partager, de créer cette émotion. Puis c'est tout le jeu des assises aussi. On allait à la cour d'assises, notamment à Paris, comme on allait au théâtre. À l'époque, il faut imaginer, la salle des pas perdus à Paris, il y avait des vendeurs de sandwichs. Il y avait une dame qui passait avec son petit panier pour vendre des petits sandwichs, etc. à la pause. Donc c'était quand même quelque chose de vivant et les gens allaient au spectacle. Et à l'issue, c'était la condamnation. Alors évidemment, les jurés, jusqu'on va dire en 1832, prenaient un malin plaisir à contrecarrer un petit peu le pouvoir des magistrats, puisqu'ils étaient là, c'était des petits chefs, ils étaient élus, on va dire, enfin élus. Ils étaient tirés au sort, mais il y avait encore le sens. Donc c'était essentiellement des bourgeois, des propriétaires terriens, des rentiers. Et évidemment, face à ces violences-là, on va dire, à Paris, ils étaient plutôt transigeants, même très indulgents, parce que ils n'étaient pas là pour condamner à mort. À la campagne, notamment toute la Seine-et-Oise, j'ai étudié tout le département qui entourait la Seine à l'époque, là, ils étaient un peu plus intransigeants, on va dire. Ils n'acceptaient pas le trouble à l'ordre public. Ce n'était pas les violences conjugales qui venaient réprimer, c'était le bazar que le couple avait fait en dehors. Et ça, on se rend compte que quelque part, il n'y a pas tant d'émotion que ça. L'émotion, elle est, ça m'a dérangée. Et d'ailleurs, tous les témoignages le disent. Hein, c'est oh là là, qu'est-ce qu'ils n'arrêtent pas de se disputer, j'ai pas pu dormir, ils sont pénibles. Donc le juge, il consigne ça. Mais on sent bien que là, il n'y a pas d'émotion. À partir de 1832, arrive la possibilité pour les jurés de se prononcer sur les circonstances atténuantes. Et là, on passe un autre cap. Là, on se dit que, faut faire quelque chose. Et c'est pareil, l'émotion, elle ne va pas être du côté de l'inculpé pour, on va dire, ou même de la victime, pour essayer de comprendre ce qu'elle a ressenti. On va être à nouveau dans l'émotion, dans le sens où on va, excusez-moi du terme, emmerder les magistrats à nouveau, parce qu'on n'y croit pas à ce code qui est trop répressif. Et donc, on y va, on requalifie les infractions. Et donc, chez les jurés, il n'y a pas tant d'émotion que ça. Il faut vraiment... des grandes affaires, et moi j'en ai pas trouvé, mais il n'y a pas eu cette émotion-là. L'émotion, elle est davantage, elle est perceptible davantage chez les magistrats quand on lit, évidemment, les interrogatoires qu'ils retranscrivent, et surtout cet acte d'accusation. Alors, après, on peut imaginer peut-être que les jurés ont été sensibles, mais ça serait faire de l'anachronisme, moi j'ai pas été à l'époque, je le sais pas. On a juste la réaction des présidents d'assises, quand ils consignent, évidemment, à la fin, leur impression, des avis d'ailleurs qui ont permis d'ériger les fameux comptes généraux de la justice criminelle de l'époque. Là, on se rend bien compte qu'effectivement, ils ont senti quelques frémissements de la part de certains jurés quand on a reconstitué la scène, quand on a montré les plans, notamment le plan à l'intérieur qui a été... la scène de crime, les photos, et puis les fameux plans qui étaient faits par les architectes et qui permettaient en tout cas aux membres du jury de se rendre compte de la manière dont les faits s'étaient passés. c'est, enfin, parler d'émotions, ouais, ça reste difficile. Mm-hmm. Pour les membres du jury, du jury, ça reste très difficile.
C'est ce qui est intéressant aussi dans l'arrivée du pénal dans l'aspect civil, c'est pour les protagonistes de ces malheureuses histoires, c'est passer aussi du privé, j'ai presque envie de dire, au public. C'est voilà, on est obligé de montrer ce qui s'est passé, on est obligé de dire, on va commencer à devoir justifier, expliquer, ce qui a conduit parfois certaines victimes à se rétracter ou à revenir des fois sur leur première déposition, parce que tout d'un coup, confrontés à l'autre, que ce soit le bourreau ou alors leur parole mise face au témoin, tout d'un coup, on a l'impression qu'ils étaient perdus ou qu'ils se sentaient peut-être plus légitimes pour qu'est-ce qui pouvait motiver ces retours en arrière, hein.
Alors, il faut savoir que les violences conjugales, quand elles arrivent au pénal, l'essentiel, en tout cas, des affaires que moi j'ai eues en main, elles arrivent parce qu'elles ont été commises en flagrant délit. C'est-à-dire que le mari a été surpris en train de battre sa femme. Donc là, c'était plus rapide. Parfois, certaines ont été dénoncées par des voisins qui sont venus directement voir le procureur ou tout simplement écrit des courriers. Les plaintes des victimes, il y en a très peu. Il y en a très peu puisque, pour elles, porter plainte, c'était une démarche assez complexe. On ne va pas le nier, hein, il y a une espèce de domination comme ça masculine sur la femme qui fait qu'elle est... Elle ne sait pas comment faire. Et puis pareil, on ne va pas nier non plus que la plupart des, en tout cas des affaires que moi j'ai consultées sont quand même des classes populaires. La plupart du temps, les couples sont tous les deux un peu abrutis par l'alcool. Donc c'est difficile d'objectiver, en tout cas pour la femme victime, ce qu'elle a. Et puis en plus, on a tout l'imaginaire social qui veut que on s'amuse de le mari peut lui donner un bon coup sur la tête, ça ne fera rien. Il y a toutes ces coutumes en plus qui commandent un petit peu les comportements entre les uns et les autres. Donc c'est difficile pour la femme victime, en l'occurrence, et même l'homme, encore plus pour l'homme qui se laisse comme ça ainsi subvertir dans sa fonction d'homme, d'aller porter plainte. Alors quand elle porte plainte, la plupart du temps, parce qu'elles vont le faire parce qu'elles en ont vraiment marre. Mais alors, du coup, porter plainte, ça enclenche, on va dire, la machine judiciaire. Et là, elles n'ont pas prévu toutes les conséquences. Et la plupart des affaires qu'on a de violence conjugale, effectivement, ont été classées sans suite puisque la femme a retiré sa plainte. Elle ne voulait pas que son mari soit condamné, elle voulait simplement faire arrêter les violences. Alors, souvent, elles allaient voir le maire du village ou le juge de paix, du juge de proximité pour à l'époque, et qui permettait en tout cas de discuter avec le mari, lui faire une petite leçon, et souvent ça suffisait. Mais parfois ça ne suffisait pas, et là à ce moment-là, elles allaient voir le commissaire, et ça permettait en tout cas d'enclencher. Mais elles ont du mal en tout cas à faire cette démarche-là. Et puis il y a aussi le fait qu'en droit pénal, une femme ne peut pas témoigner contre son mari. Donc ça, c'était encore difficile pour elles de légitimer leur action, puisque en bout de course, la loi leur interdisait. Donc, assez habilement d'ailleurs, les magistrats ont commencé à distinguer, oui, mais il faut distinguer la phase de l'instruction puis la phase du procès. Et pendant toute la phase de l'instruction, ils ont quand même essayé de faire prêter serment à la victime, faire fi en tout cas de cet article qui interdisait à la femme de témoigner contre son mari. Parce que pour eux, il était important de recueillir la parole de la victime. Alors certains... dans certains procès-verbaux, on a effectivement apprêté serment, d'autres on ne l'a pas, mais en tout cas, c'est un document suffisant pour le juge de dire la femme, elle a agi, on a quelque chose, et c'est déjà bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les concubines victimes, elle, c'est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que la femme qui était à la colle à l'époque, comme on disait, les couples qui étaient à la colle, qui étaient en concubinage, eux, c'était plus simple pour eux. Et c'est d'ailleurs parce que les magistrats venaient réprimer les violences perpétrées, les rixes d'ailleurs perpétrées au sein de ces couples-là, qu'ils ont décidé de supprimer cette inégalité, cette discrimination quelque part, et d'appliquer les mêmes normes aux couples aussi mariés. Mais c'est vrai que la démarche n'est pas évidente, et on n'a pas comme ça pléthore de plaintes de femmes qui disent « maintenant ça suffit ». Il y en a, c'est bien. On sent qu'elles s'en sont emparées de l'affaire, mais parfois c'est difficile. Et puis j'évoquais effectivement la conjugalité qui est souvent en prise avec l'alcool. C'est difficile aussi pour les magistrats de démêler le vrai du faux aussi, là encore, puisque la plupart du temps, la dispute, elle ne commence pas toute seule. Il y a quelques cas où le mari entre, allez hop, paf, il donne une torgnole à sa femme. Bon, il y en a. Mais il y en a des fois, c'est carrément la dispute quotidienne. Et tous les deux étant ivres, ils y vont de leur point. Et là, c'est le problème de la légitime défense, c'est le problème de la provocation. Alors, la légitime défense, il y a eu des cas. Le cas d'une femme qui, là pour le coup, ne supportant plus les coups de son mari, a décidé de fuir cette fois-là. Le mari l'a poursuivie et elle a attrapé une serpe sur son passage et a évidemment poignardé son mari. Le mari est décédé. C'était difficile à l'époque pour les magistrats et même encore aujourd'hui, je pense notamment à un certain nombre d'affaires médiatiques qui ont occupé les médias ces derniers temps, de reconnaître la légitime défense, puisque la légitime défense en droit est très codifié et répond à une proportionnalité de l'acte. Voilà. C'est-à-dire que si elle avait été attaquée par un couteau et qu'elle avait répondu à, en tout cas au coup d'un couteau par un couteau, c'était bon. Là, de répondre à une claque par un couteau, c'était disproportionné. Donc on ne retenait pas la légitime défense. En revanche, dans ces cas-là, c'est là que les documents des magistrats étaient passionnés, partiaux, enfin, en tout cas qui mettaient en avant le calvaire de ces accusés, on va dire, victimes, puisqu'ils en avaient bien conscience que, bon, bah, on ne peut pas laisser des femmes comme ça condamnées, et ça marchait, puisque souvent elles étaient condamnées. À partir de 92, d'ailleurs, elles avaient du sursis liberté, mais elles étaient quand même condamnées, mais à des petites peines. Et c'était. Ça existait. En revanche, en ce qui relève de la provocation, il y a eu beaucoup de cas de provocation. Et là, évidemment, ça va diminuer la responsabilité des uns et des autres. Puisque si le couple a l'habitude de se battre, de se gifler, là, évidemment, c'est plus délicat. Et donc, les magistrats se sont parfois posé la question. Honnêtement, j'ai relevé dans quelques cas où la question a été posée aux membres du jury, puisque c'est arrivé jusqu'aux assises. Certains jurés ont dit oui, il y avait provocation, donc ça entre en ligne de compte et ça diminue d'autant la responsabilité de l'accusé. Parfois, ils ont dit non. Donc ça dépendait de plein de choses, des faits. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait de penser par cas, c'est-à-dire que chaque affaire est tellement différente qu'on a un cadre juridique et ça va dépendre après.
Et on voit justement pour chaque affaire comment petit à petit se met en place une sorte de pratique qui va tendre à se généraliser et qui va permettre à la fois de fluidifier le travail des juristes et en même temps de bâtir une défense et des arguments de plus en plus solides. J'aimerais justement que vous reveniez sur ces... J'ai noté quelques points qui me paraissaient vraiment intéressants. La mise en place des témoignages, comment on les recueille, à quel moment de l'affaire et comment petit à petit, du coup, ils prennent de plus en plus de poids au sein des histoires. Entre la distinction entre témoignage et interrogatoire aussi, qui est importante. Et après, des questions que vous avez déjà un petit peu commencé à évoquer, la question de la préméditation, la question de prendre en compte les antécédents et l'intervention des rapports médico-légaux, des expertises médicales qui vont venir appuyer et à la fois permettre de comprendre les enquêtes, de donner des éléments pour savoir ce qui s'est réellement passé ou pas, et du coup d'influencer aussi les décisions par la suite.
Alors, comme je disais au tout début, en fait, j'ai oublié, enfin, je ne sais plus maintenant, à force de le dire, en fait, les violences conjugales, en tant que telles, elles n'existent pas. Ce n'est pas une qualification juridique. Donc, et même encore aujourd'hui. Et tant mieux, on y reviendra peut-être. Mais à l'époque, il fallait donc trouver un nom à ces violences-là. Et c'est tout le travail des juristes que de donner un nom à ces choses. Donc, ils qualifient le monde, un peu comme on met en partition la musique. Et pour faire rentrer dans les normes pénales ces violences conjugales, eh bien, on a ouvert tout simplement le code pénal de l'époque. Et donc, on a trouvé des coups et blessures. On a des homicides, donc le meurtre, l'assassinat. On a également l'empoisonnement. On a eu le viol, l'attentat à la pudeur également. Donc, toutes ces infractions-là, il a fallu évidemment... Les faire coller aux faits qui leur étaient présentés. Et pour essayer de qualifier, le juge d'instruction a à sa disposition, et même encore aujourd'hui, mais en tout cas avait énormément à sa disposition, le témoignage. Alors le témoignage à l'époque, c'est basé sur du oui-dire. C'est-à-dire qu'on prenait en considération celui qui avait cru entendre que quelqu'un avait dit que... Bon, ça marchait très très bien, c'était une preuve suffisante pour eux, puisque de toute façon, vu la distance des territoires, et quand on songe à un département comme la Seine-et-Oise, qui était énorme, c'était tant mieux, puisque le pauvre juge d'instruction avait du mal à tout recueillir. Donc, le témoignage, c'était généralement les voisins, la famille, Et c'est là qu'on voit évidemment la guerre de tranchées entre la famille de l'accusé et évidemment la famille de la victime, puisque pour la famille de l'accusé, c'était une bru qu'il avait ramassée dans le coin, dans un lavoir quelconque. Et puis pour la famille de la victime, oui, le mari était un ivrogne, avait terré, il lui avait piqué toute sa dot et l'empêchait de travailler, patati patata. Donc le juge, il a ça dans son cabinet. Et puis évidemment, bon, bah, c'est l'argument des uns contre l'argument des autres. Alors c'est vrai que ça fait sourire, mais quelque part, je pense que le magistrat aussi devait sourire de ça. Un peu moins quand il convoquait les deux époux, quand ils ne s'étaient pas entretués. Mais on voyait effectivement les arguments des uns et des autres, et ça servait en tout cas à forger son opinion. Souvent, à travers les témoignages, on arrivait aussi à reconstituer l'habitus conjugal, c'est-à-dire depuis combien de temps le couple était en mésintelligence, comme on disait, depuis combien de temps il y avait des maltraitements, des mauvais traitements, pour reprendre les expressions de l'époque. Et tout ça, il l'avait à travers le témoignage. La différence entre le témoignage et l'interrogatoire, c'est que l'interrogatoire ne concerne que l'accusé, que l'inculpé, que le prévenu. Et là, l'interrogatoire, c'est pareil, il a été codifié. Il n'a pas été codifié simplement au 19e, il a été codifié dès le 16e siècle. Et il a surtout permis aux magistrats de remobiliser tout ce que Lebrun et tous ceux qui avaient dessiné toute cette psychologie à travers le dessin des émotions avaient mis en place, et qui permettait aux magistrats de repérer à travers un signe, une rougeur, un embêtement comme ça, la pensée indirectement de l'inculpé. Mais cette méthode-là, il l'utilisait également pour les témoins, puisque un témoin, évidemment, n'est pas toujours bien fiable, et ça, c'est très délicat. Et l'interrogatoire, c'est quelque chose qui vient au juge d'instruction. Alors, la meilleure des procédures pour l'époque, c'est Adolphe Guillot qui l'a codifié. Pour lui, il fallait qu'il y ait 3 interrogatoires. Et si le juge d'instruction ne menait pas 3 interrogatoires minimum, c'était un très mauvais juge d'instruction. Il y avait la première réunion qui était, on l'informait de son inculpation. Et puis la deuxième, c'était cet échange qu'il y avait, on va dire, dans l'intimité du cabinet du juge, sans la présence de l'avocat, puisque l'avocat ne rentrera dans le cabinet du juge d'instruction qu'à partir de 1898. Donc on est vraiment dans un face-à-face intime entre le juge, son greffier et l'accusé, et puis évidemment les deux gendarmes, la maréchaussée. Et là, on le laisse parler. Et Adolphe Guillot, lui, il laissait parler. Il aimait bien laisser parler l'inculpé, parce que souvent, il disait plein de choses. Alors, il consignait comme ça. Et on a des pages comme ça qui recopient les paroles. Quand l'inculpé soupire, on met entre parenthèses l'inculpé soupire. Quand l'inculpé pleure, entre parenthèses, on met l'inculpé pleure. Donc, on a l'impression d'être avec ce juge, rétrospectivement, quand on lit ces interrogatoires-là, on a l'impression d'être avec le juge dans son cabinet. C'est assez troublant d'ailleurs. Et puis arrive le dernier interrogatoire. Entre-temps, il y a eu tous les témoignages. Et là, c'est la confrontation, évidemment, au dire. Et ça servait évidemment à repérer, en tout cas, depuis le début, en tout cas, comment on en est arrivé là. Ce cheminement criminel était important puisque ça permettait aux magistrats de se dire « là, j'ai affaire à un meurtre, c'est un coup de sang ». Il n'y a pas eu de préméditation. Il a agi comme ça il n'en pouvait plus. Il ne s'est plus contrôlé. Il a agi comme ça sans réfléchir. Et la préméditation, donc, qui relevait de l'assassinat, ça veut dire quelqu'un qui a réfléchi à tête reposée à comment il allait se débarrasser de son conjoint. Et ça, c'était fondamental, puisque quand à travers les témoignages, on avait un armurier du coin qui disait « Oui, monsieur machin est venu acheter un revolver, il est même allé l'essayer à l'hippodrome de Vincennes, il est revenu me le rendre puisqu'il trouvait que les trous n'étaient pas assez gros, alors j'en ai vendu un autre ». Alors évidemment, ça c'était une semaine avant les faits, avant qu'il évidemment tue sa femme avec cette arme. Donc ça, à partir de ce témoignage-là, on a des éléments, en tout cas, qui permettent l'établissement de la préméditation. Et ça permettait, en tout cas, aux magistrats de dire « là, on est dans un cas d'assassinat, ou tentative d'assassinat, ou simplement de meurtre, quand, évidemment, on a d'autres cas où l'homme rentre, la femme n'a pas fait à manger, comme à son habitude, elle s'est enivrée, elle ne s'est pas occupée des enfants, il n'en peut plus, il attrape ce qui lui passe sous le bras, et il casse tout, et puis quand il casse tout, la femme, elle se prend un mauvais coup, et voilà. Et là, évidemment, il n'y avait rien de prémédité, puisque c'est la colère qui a dominé, c'est l'impétuosité, et là, on est malheureusement dans un cas d'homicide simple, un meurtre ou tentative de meurtre. Donc tous ces éléments-là, le témoignage, l'interrogatoire, lui permettent en tout cas d'établir et de donner un nom juridique à ces violences conjugales. Pour l'empoisonnement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et là, on est vraiment dans la criminalité féminine pour l'essentiel, puisque la femme, c'est elle qui détient les clés du manger et du boire. Et les femmes prenaient un malin plaisir, évidemment, à mettre de l'arsenic. C'était plus facile, hein, on trouvait plus facilement de la morora. D'autres étaient un petit peu plus techniques, enlevaient les bouts des allumettes. Il faisait tremper le sulfate de je ne sais plus quoi, la tremper dans l'eau, elle le mettait dans l'eau de vie, et ça empoisonnait comme ça progressivement son mari. Et il mourait, ce mari, comme ça, d'une mort bizarre, pris d'atroces convulsions. Alors, il n'y avait pas de violence, on ne savait pas trop ce qui se passait dans le couple, mais on avait une vague idée que c'était une femme un peu acariâtre, lui il était un peu faible, alors déjà souvent ça c'était les couples suspects. Et à travers ces rumeurs-là, eh bien, le magistrat arrivait à se faire une idée. Mais pour les empoisonnements, là, on a eu besoin de recourir à l'expertise et aux médecins légistes. Alors, la médecine légale est assez artisanale à l'époque, mais elle fait quand même quelques progrès, avec des grands noms, comme Tardieu. Alors, le recours aux hommes de l'art, comme on disait dans les manuels de juges d'instruction de l'époque, était fondamental puisque on partait du principe que les magistrats savaient beaucoup de choses, mais pas tout quand même. Et donc ils avaient besoin du regard de ces hommes de l'art pour savoir à partir de quand la femme était morte ou le mari était décédé. Alors, assez rapidement, les médecins légistes qui vont montrer qu'ils savent des choses vont être pris à leur propre piège, puisque les magistrats, plus on leur dit que un tel est capable de démontrer la mort d'une femme, plus les magistrats vont être en demande. Et ce qui fait que dans leur ordonnance d'expertise, on avait comme ça. Pourriez-vous établir que la femme est morte de ses coups, que les anciennes blessures dataient de temps, etc., etc. Donc, on cumulait comme ça énormément d'informations et les médecins légistes ont commencer à prendre l'habitude, effectivement, à mieux expertiser les blessures. Et grâce à leur travail, aux attentes des magistrats et au travail, qui a été long, hein, mais au travail progressif des médecins légistes, ils ont pu établir comme ça l'ancienneté des blessures, analyser les anciennes, en tout cas les os brisés, comme on fait un peu comme on fait aujourd'hui. Et ça a permis à nouveau d'établir cet habitus de violence dans le couple. Et de rajouter, on va dire, pour les magistrats, des circonstances aggravantes pour pouvoir incriminer. Donc, effectivement, le recours à l'expertise, on va dire, médico-légale était fondamental. Et puis, une autre expertise médicale qui a un peu moins pris celle-là, c'est le recours aux aliénistes, l'expertise mentale. Pourquoi elle a moins pris celle-ci ? Puisque dans une société où boire, c'était, on va dire, boire du vin ou de l'eau de vie, c'était commun, comme on boit de l'eau aujourd'hui, c'était difficile de dire qu'un tel était alcoolique. Puisque qu'est-ce que l'alcoolisme à l'époque, quand on voit les taux aujourd'hui, c'était pas. Enfin, à mon avis, on serait mort. Enfin, on mourrait aujourd'hui de voir tout ce qu'il buvait. Donc, là où les magistrats étaient contre, c'était de faire reconnaître, en tout cas, cet état d'alcoolique, puisque derrière, il y avait un état d'irresponsabilité. Or, si on déclarait le mari qui était ivre, irresponsable, on ne le condamnait pas et quelque part on excusait les violences perpétrées au sein du couple. Donc là-dessus, ça n'a jamais marché, mais ça n'a pas empêché les médecins aliénistes d'expertiser certains maris. Et certains ont effectivement vu je pense notamment à l'affaire Giocardo, qu'il jouait tout simplement la comédie. Voilà. Parce que c'était passé dans les mœurs que plus vous buviez, vous faisiez croire que vous aviez bu, comme ça vous pouviez dire que vous aviez agi sous un coup de sang, et puis comme ça vous serez acquitté lors de la cour d'assises. Et puis les jurés, ils aiment bien les hommes qui ont bu et qui ont perdu leur sang-froid. Donc ça a marché un temps, mais ça ne marchait pas pour les magistrats. Alors pour les jurés, là c'était différent, puisqu'on permettait donc aux médecins experts de s'exprimer à la barre. Et là, évidemment, eux-mêmes buvaient et disaient, pourquoi pas. Oui, effectivement, il peut avoir perdu son sang-froid. Mais ça restait quand même assez délicat. Et il y a eu, notamment en matière d'empoisonnement, il y a eu quand même pas mal de ratés. Et ils ont arrêté comme ça de vouloir absolument montrer toutes les choses. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. C'était très difficile d'arriver avec l'argument scientifique, de dire, non, c'est pas un empoisonnement, alors que oui, c'est un empoisonnement. Là, c'est un coup de cheval. Ah non, finalement, c'est un coup de barre de fer. Donc, c'est assez délicat. Et il y a eu comme ça pas mal d'affaires qui ont été rejugées, cassées en appel, puisqu'il y avait eu une erreur dans l'expertise. Donc, on voit qu'on tâtonne un peu sur cette carte.
Oui, ce qui amène à beaucoup d'admiration quand même devant la persévérance de leur travail et combien ils ont eu raison de le faire, parce qu'on en est, enfin, on en a l'héritage aujourd'hui.
Oui, les médecins légistes aujourd'hui, les quelques médecins légistes, se sont héritiers de tous ces travaux, que ce soit de Lacassagne, de Lombroso, en ce qui concerne la criminologie, et puis de Tardieu. Et de Brouardel, surtout, à Paris, qui a créé l'Institut médico-légal et qui a vu l'idée de génie de prévoir comme des frigos, quand même. C'était pareil.
Alors, j'avais encore plein de questions, mais je voudrais laisser la possibilité au public de vous en poser également. Je voudrais juste qu'on termine sur un point qui me paraît essentiel et qui, je sais, vous tient à cœur. Donc, on a parlé des hommes battus, des femmes battues. C'est extrêmement important de, justement, ne pas genrer ces notions de violence conjugale, pour faire très attention aux raccourcis qui sont faits peut-être au départ dans un but louable pour défendre la cause féminine, évidemment, parce que ce sont les premières victimes, mais pas que. Comment vous ressentez, vous, après ce travail-là, nos rapports aujourd'hui face à ces violences conjugales, et qu'est-ce qu'elles disent peut-être de notre société et du chemin qu'on a encore à parcourir pour s'en minimiser, mais dire les choses de façon juste?
Je vais reprendre l'expression d'Elisabeth Badinter. Je crois qu'on a fait fausse route jusqu'à présent en matière de violence conjugale. C'est vrai que dans les années 70-80, quand il s'est agi évidemment de lutter contre les violences conjugales, et notamment les violences faites aux femmes, il va de soi qu'on a dressé un portrait noir de la société du 19e siècle, et on a préféré taire tout ce qui avait été fait, puisque sinon on n'avait aucun argument. Quelque part, les mouvements féministes des années 70-80 ont été salutaires, puisque lors de la refonte du code pénal en 1992, la commission a inséré en circonstances aggravantes le fait de battre, tout ce qui relève des meurtres, des assassinats, des coups et blessures, c'est une circonstance aggravante quand ça a été commis sur un conjoint, un concubin, un paxé maintenant. Donc ça, c'est fondamental. Là où moi, je trouve un peu déplorable le discours des féministes, c'est qu'elles se sont contentées de lutter contre les violences faites aux femmes. Or, les violences conjugales, c'est des violences dans le couple, c'est des violences dans une conjugalité. Et on a observé, il y a des cas, même s'ils sont minimes, mais à l'époque, on trouvait qu'il y en avait peu, des femmes battues, donc c'est un peu dommage de sortir cet argument-là pour les hommes, mais il y a des femmes qui commettent des violences. Et avec ce discours des féministes, pendant longtemps, on a nié la violence des femmes. On a nié le fait qu'elles pouvaient commettre des actes de violence. Alors, on avait reconnu les violences des mères, avec l'infanticide, mais la violence de la femme, de l'épouse sur son conjoint, ou de la concubine sur son concubin, on la nie. Et ça, c'est dommage, parce que c'est pas lutter contre les violences conjugales. Et c'est pour ça que, quelque part, on fait fausse route, puisque les violences conjugales, c'est, on va dire, un phénomène social qui existe et qui doit être réprimé en tant que tel. Et il existe, en tout cas, dans le code pénal, il y a suffisamment d'éléments qui permettent de réprimer ça. Et ce qui, je trouve, un peu dommage aussi, c'est que... Alors, il faudrait creuser, hein, mais là, je laisse ça aux jeunes chercheurs maintenant de le faire. Mais c'est de comprendre comment se fait-il que... Alors, on a maintenu, en tout cas, la position du pénal a été très claire. Jusqu'en 1923, la Cour de cassation viendra régulièrement rappeler que le pénal est compétent et qu'il est hors de question de laisser le mari faire son petit Bonaparte, comme on disait. Hein, cet empereur au petit pied. Donc, on sait que c'est soutenu. On sait que, après 1945, là, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Alors, on sait aussi que la formation des magistrats a été autre. On sait également qu'il y a eu une inflation des lois, etc. Et on sait aussi que, même encore, finalement, faire rentrer le pénal dans la famille, ça pose encore des problèmes. Mais toujours est-il que, bon, 92, nouveau code pénal, il y a suffisamment d'éléments qui permettent, en tout cas, de réprimer. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce combat un peu aveugle, qui tire toujours les violences conjugales sur les violences faites aux femmes. Ça n'a rien à voir, c'en est un élément. Mais les violences conjugales, c'est les violences conjugales. Si on veut lutter efficacement contre les violences conjugales, il faut les prendre en tant que violences conjugales, en tant que phénomène social, en tant que tout, et ne pas se servir des violences conjugales comme d'un fer de lance pour dénoncer les violences faites aux femmes. Parce qu'on perd tout, on perd les combats, et quelque part, on marginalise ce que l'on veut dénoncer, qui est donc le fait de commettre des violences vis-à-vis des femmes. Alors, on entend un peu partout maintenant, on va même créer des féminicides, à l'exemple de l'Amérique latine. Moi, je dis attention, nous, on est un pays différent culturellement, et juridiquement. Le féminicide, ça voudrait dire quoi ? C'est-à-dire que d'un côté, on a les hominicides qui correspondent donc aux hommes et les féminicides d'un côté. Donc bah là, messieurs, mettez-vous d'un côté, mesdames, mettez-vous de l'autre. On va avoir une société qui va séparer les individus. Or, il vaut mieux aborder les choses sans tenir compte, comme au XIXe siècle, sans tenir compte de la qualité de la victime, et ça c'est fondamental, et c'est comme ça que finalement les normes s'appliquent, et notamment d'un certain nombre de réformes qui avaient été prévues et qui ont abouti hein, dans les années 2000 jusqu'à 2014, où certaines élues féministes voulaient absolument créer une infraction de genre, et où quand la loi est passée, le Sénat a dit non, on ne distingue pas, ça c'est appréciable, parce que là on se rend compte que quelque part c'est la violence conjugale qu'on doit réprimer, et pas simplement la violence faite aux femmes. Ça c'est des circonstances aggravantes, mais elles existent indirectement dans les normes que l'on a. Parce que c'est dans une conjugalité que le fait de taper son conjoint, son concubin, son paxé, c'est mal. C'est répréhensible. Donc voilà, par rapport aux violences conjugales. Après, c'est vrai que ce qui relève des violences faites aux femmes, c'est un autre combat, c'est une autre démarche. Mais je serais tentée de dire qu'on a aussi des violences qui sont perpétrées sur les hommes, et des fois, on s'en moque un peu. Et puis moi, ce qui me gêne à vouloir tirer comme ça les violences conjugale vers les violences faites aux femmes, c'est nier maintenant la conjugalité homosexuelle. C'est-à-dire que, voilà, hein, il y a des couples homosexuels hommes. Et il y avait à l'époque un article de Jérôme Cordourias qui avait travaillé justement là-dessus, hein, sur les rapports de domination au sein d'un couple homosexuel homme. Et également dans les couples lesbiens, parce qu'il ne faut pas le nier, là, pour le coup, il y a des femmes qui sont violentes. Voilà. Et ça, de tirer absolument vers les violences conjugales, vers tout simplement les violences faites aux femmes, c'est perdre toute une partie de l'existence d'une forme de conjugalité aujourd'hui.
Oui, ça souligne vraiment toutes les difficultés que l'on a à se positionner socialement, de voir aussi à quel point on est imprégné par notre passé, dans les relations qu'on a les uns aux autres, comment ça crée aussi tout un imaginaire, et que vouloir en sortir, c'est bien, mais qu'il ne faut pas se tromper de cible et de manière de le faire. Mais ça nous interroge vraiment sur le modèle de société et ce qu'elle reflète aujourd'hui dans ces problématiques sur lesquelles on a encore un long chemin à parcourir. Un sujet qu'on trouve assez rarement, et qui, je trouve, est vraiment important. Alors là, on va peut-être encore un peu plus loin dans l'intimité, qui sont les violences sexuelles et la notion de viol conjugal. Vous accordez plusieurs pages sur ce sujet. Comment ça a été abordé au XIXe siècle ? De quelle façon les juristes se sont emparés ou positionnés sur ce thème-là ?
Alors, le viol conjugal n'existait pas au XIXe siècle, puisqu'on partait du principe que de se marier, on se mariait pour procréer. Donc, on avait forcément des rapports sexuels. Donc, à la base, c'était très compliqué pour les magistrats de l'époque de se dire, bon, voilà, il existe un viol conjugal. La loi qui va venir reconnaître le viol conjugal date de 1980. Et les premières décisions en justice de la Cour de cassation qui viennent réprimer véritablement et rappeler à l'ordre, quelque part, les juridictions du fond, datent des années 90. Donc, vous voyez, entre le 19e siècle et les années 80 à 90, c'est encore très long. Mais il y a une décision en 1839, qui vient reconnaître quelque part l'attentat à la pudeur. Alors il faut savoir que le viol et l'attentat à la pudeur, les magistrats et les médecins légistes n'avaient pas la même définition. Pour les médecins, viol, il y avait viol dès qu'il y avait intromission du sexe masculin. Il y avait attentat à la pudeur quand il n'y avait pas d'intromission du sexe, mais qu'il y avait en tout cas, on va dire, gêne, tentative. En tout cas, on met dans un état de gêne la victime. Donc ça, c'était important pour les médecins. Pour les magistrats, pour la justice, la distinction entre viol, d'ailleurs une distinction qui apparaîtra à partir de 1832 dans le code pénal, puisqu'en 1810, on ne prévoit pas le viol ni l'attentat à la pudeur, et ça apparaîtra en 1832 dans l'article 331 du code pénal. Donc c'est assez tardif. Enfin, pour l'époque, c'est plutôt bien. Et les magistrats, eux, distinguent dans le viol, il y a violence. Et ça, c'est fondamental. Et dans l'attentat à la pudeur, il n'y a pas de violence, il y a, on va dire, gêne. Ils reprennent à peu près la même que les médecins. Et en 1839, justement, il y a une affaire qui arrive comme ça à la cour de cassation et qui va déranger les magistrats. Dans les faits, on n'a pas trop de détails parce que c'est des décisions. On a, généralement, à l'époque, il ne s'étalait pas trop sur les faits, mais on a quelques pistes. Au niveau des faits, c'est une femme qui avait été, on va dire, violentée par son mari qui lui a demandé des actes contre nature. Alors, on n'a pas de détails, mais à l'époque, sachez que la nudité, on parlait de nudité quand une femme était simplement en chemise de nuit. Donc, vous voyez à peu près le degré, on va dire, de gêne qui était provoqué. Il n'était pas question de reconnaître le viol. Donc, les magistrats ont essayé de reconnaître l'attentat à la pudeur. Sauf que l'avocat du mari, c'était Le Dru Rollin, le fameux Le Dru Rollin, qu'on verra sur les barricades, et qui a défendu très très bien son client. Puisqu'il a estimé que les mystères du lit conjugal devaient rester secrets, que la justice n'avait pas à rentrer comme ça sous l'alcôve et que ça ne regardait personne. Et puis en plus que le mariage était en gros l'extrême limite de disposition du droit. Donc ça posait des gros problèmes. Alors déjà qu'on avait eu du mal à légitimer le pénal, en tout cas à s'immiscer dans les couples. Alors en matière de viol, là, faire rentrer le pénal sous la couette, c'était un peu difficile. Enfin, sous les dredons à l'époque, c'est un peu plus difficile. Mais qu'importe, le Dru Rollin, malgré ses arguments, n'a pas réussi à convaincre l'avocat général, qui n'était autre que Dupin. Dupin qui était ultra conservateur, on est en 1839, c'est pareil, hein, encore un régime très, très conservateur. Et lui, il dit, ah non, au contraire, il n'y a point de puissance qui n'ait ses limites. Et pourquoi pas la justice au pied de lui ? Ouais, pourquoi pas ? Parce qu'on part du principe qu'il n'est pas question pour le pénal, de laisser une femme victime, en tout cas sous la coupe de la puissance abusive de son mari. Et via l'attentat à la pudeur, c'était une manière, quelque part, de reconnaître le viol conjugal. Alors, ça a été un bricolage comme ça, assez intéressant à suivre. Pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez lire les détails dans le livre. Mais c'est ça qui est assez novateur, c'est que à travers une autre infraction, ils ont réussi, on va dire, à démonter ce qu'un juriste assez véhément contre Napoléon à l'époque, qui s'appelle Émile Accola, qui avait dû d'ailleurs s'exiler pour ses propos, dénoncer. C'est-à-dire que les magistrats sont allés à l'encontre de ce debitum conjugale qu'on disait, c'est-à-dire que ben on n'est pas là pour se marier, pour procréer. Que si une femme, elle dit non, ben, elle a le droit de dire non. Et peu importe les liens qui les unissent. Et ça, c'est fondamental. Et puis, plus rien après. Plus rien parce que les femmes victimes d'attentats à la pudeur ou de viol vont pas forcément le dire. Et même encore aujourd'hui, ça reste très difficile pour une femme, même un homme d'ailleurs, de porter plainte pour viol. Et puis arrive la loi de 1980, les décisions de 90, et ça reste encore très 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 difficile pour une femme de faire reconnaître le viol conjugal. Alors souvent, les états de violence sexuelle, aujourd'hui, elles apparaissent quand les femmes demandent le divorce, ou là, divorce pour faute. Et là, le juge aux affaires familiales, qui n'est plus le juge d'instruction maintenant, puisque tout passe au juge aux affaires familiales, l'essentiel d'ailleurs des violences conjugales, hein, c'est le JAF qui les gère, ce qui est un peu triste, eh bien, il découvre des cas de violences sexuelles. Mais elles ne vont pas porter plainte pour autant, les femmes. Elles veulent juste se débarrasser de leur mari violent. Et c'est ça qui est embêtant. Mais c'est très long à reconnaître. Et on peut se féliciter que quelqu'un comme Dupin, qui était ultra conservateur, ou même comme Moore en 1825, qui était aussi très conservateur, eh bien, ces hommes de loi-là ont réussi quelque part à faire reconnaître eh bien, le sort malheureux de ces femmes, et puis surtout à imposer que la puissance, eh bien, toute puissance n'a pas, peut avoir des limites, et que ça, c'est à respecter.
Oui, mais du coup, on voit encore aujourd'hui combien les femmes sont marquées et que la libération de la parole et le droit de se penser victime, c'est pas encore intériorisé. Enfin, il y a quelque chose de...
Ah bah non, de se penser victime, c'est se penser faible aujourd'hui. Mmh. Et c'est encore plus dur dans notre société, puisqu'on met partout l'idée qu'il faut être fort, qu'il faut aller de l'avant, et de s'ériger en victime. Enfin, en tout cas, de se dire victime, c'est très difficile. Alors, les médias le font, parce qu'ils en ont besoin. Les mouvements féministes aussi érigent les femmes en victimes. Mais quelque part, cette victimisation de la femme et cette pénalisation de l'homme, c'est très lourd à supporter des deux côtés. Et qui plus est, quand on veut dénoncer des exactions aussi intimes que le viol ou les agressions sexuelles, ou même le harcèlement moral, parce que ça existe aussi, la pression morale, et ça existait aussi au XIXe siècle. Alors, on retrouve le harcèlement moral à travers les incidents incendies. Alors, je l'ai un peu moins développé parce que je trouvais que ça, après, ça partait trop loin, mais j'ai eu des cas d'incendies où la femme, c'était la menace permanente du mari qui allait boire. Il ne la frappait pas, le mari, hein. Il buvait tout son sou. Mais la femme en avait marre. Et pour le punir, elle avait décidé de mettre le feu. Et elle a mis le feu à la maison, à la grange, et tout est parti. Et ça, c'est une forme de harcèlement comme ça, c'est une pression comme ça morale, et ça a été perçu comme tel à l'époque. Et c'était tellement important, d'ailleurs, parce que brûler un bien, c'est plus important que de brûler une personne. Et même d'ailleurs, quand on regarde le code pénal, la partie qui relève des atteintes aux biens est avant la partie des atteintes aux personnes. Donc on voit effectivement, on a encore une conception assez étrange en moi. Mais au 19e siècle, c'était ça. Et elle a été condamnée à mort d'ailleurs, c'était au tout début, parce qu'elle avait mis le feu à la maison et qu'on ne met pas le feu à la maison comme ça pour punir, on va dire, son mari. Alors ça s'est propagé puisque à l'époque c'était comme des petits hameaux et évidemment le feu ne s'est pas arrêté qu'à la propriété évidemment. Et alors ça, c'est ça qui a été érigé en circonstance aggravante et qui lui a valu la condamnation à mort.
Un grand merci Victoria,
merci à vous
Vano pour cette
merci d'être venue.
Très belle conférence.